lui apprend à dire encore en langue des signes, à descendre les deux marches du salon, à boire dans un verre, à faire la ronde. Je l'emmène à la crèche, chez le médecin. Je deviens une moutie.
Tu dis moutie ?
À mes yeux.
Tu dis maman ?
Maman.
Aux yeux des autres.
Et moutie ?
À ses yeux.
Pas tartine.
Même s'il n'arrive pas à le dire encore.
Tatou !
Mais pour la loi, je ne suis rien. Je dois l'adopter, déposer un dossier au tribunal et attendre qu'un juge statue sur mon cas.
En plus, une des conditions obligatoires de l'adoption, c'est le mariage.
Alors c'est parti, on va se marier. Tout le monde est là. Les absents aussi. C'est grisant.
J'ai l'impression d'avoir pris des trucs.
Une amie nous a parlé de l'importance des rites. Le rite transforme, alors que la cérémonie confirme. L'affination élective permet à l'individu de choisir de l'appartenance et de reconstruire le groupe auquel il appartient. Il peut s'agir de personnes que l'on considère appartenir à sa famille, même si les liens créés ne sont pas de l'ordre du biologique. La dimension du choix des affinités y est donc plus forte. Les rites de passage relancent l'action individuelle et sont parfois une manière de répondre à des moments de fragilité de l'existence. Ce sont des manières de donner sens à des moments de crise à travers des actions qui sont pensées avec les autres. Ce jour-là, à la mairie, on nous a remis un livret de famille. Aujourd'hui, on est en plein dossier d'adoption. Ce mariage, c'était la première étape pour lancer cette démarche de reconnaissance légale de notre petite famille. Ce samedi-là, moi, j'ai eu l'impression que mon fils était adopté par ma clique, ma tribu. La famille qu'on a inventée, créée, celle qu'on aime. Alors franchement, merci.
Et vive les mariages. Ceux qui bousculent et qui font grincer des dents.
Méga Combi, c'est fini. La prochaine Méga Combi, c'est mercredi.
T'as entendu? Tu dois rentrer assez tôt pour pouvoir te doucher et être prêt à 6h. D'accord?
On est au moins d'accord là-dessus.
Dans un instant, c'est les infos. Alors l'apéro, le bédo et un dernier petit mot.
Orage.
Pourquoi?
Le 23 avril 2013, le Parti Socialiste Français, dans son programme méthodique de destruction des fondements de la nation, ouvrait le mariage aux personnes de même sexe. Depuis, les forces du mal ont pris l'avantage dans notre pays.
C'est plutôt le torse des mâles.
Les rues ne sont désormais plus sûres pour les pauvres humains restés dans le droit chemin fixé par le Tout-Puissant. Les rues appartiennent maintenant à ces hordes dépravées qui se complaisent dans le stupre et la fornication.
Hey, tu comptes aller à Gay Pride, toi ?
Je peux pas, j'ai un mariage ce week-end-là.
La pédophilie est devenue un hobby. Et les écoles de la République, cette chienne, sont devenues de véritables abattoirs où les prédateurs viennent assouvir leurs basses pulsions sur nos enfants.
Ils confondent pas avec la réforme du temps scolaire, là ?
Ouais, l'école le mercredi matin, c'est dur pour les mômes.
Rien n'échappe à cette vague immorale. Les squares et parcs sont eux aussi devenus des lieux dédiés aux plaisirs salaces. Les prostituées troquent leur charme avec d'autres catins. Les amours sont interlopes. La zoophilie se développe.
Tiens, ça me fait penser, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de nouvelles de Baby Népal.
Mais carrément, ben, s'il fait enfin beau dimanche, on pourrait se faire un pique-nique au parc de la Tête d'Or, non ? Ça vous dit ?
Par vos prières, préparez-vous au châtiment divin qui viendra corriger la France. Pendant 40 jours et 40 nuits, des pluies diluviennes s'abattront sur le pays.
Ça par contre, c'est vrai qu'on a une météo pourrie. Hein.
Mais vous voilà prévenus, pas de PD sur l'Arche de Noé.
Et oh, doucement sur la discrimination quand même, sinon on organisera un testing à l'entrée.
Alors que ces personnes homosexuelles sont atteintes psychiatriquement, voilà qu'on les autorise à se marier, et demain, à avoir des enfants, puis à divorcer, à avorter. C'est le monde à l'envers qu'instaure le mariage gay. Un monde détraqué où les éléments ne répondent plus à la logique du Seigneur, où même le temps s'arrête.
Putain, il est complètement zinzin, lui. Allez, c'est 19h, c'est le Canu Info.
Sachez que ce journal est réalisé uniquement par des personnels non grévistes.
Ah.
qui inquiète beaucoup l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement?
C'est encore monté d'un cran aujourd'hui.
La plus rebelle des radios. That boy you call is a diamond fella. All you little boys ever come in your parents. You fellow with your fellows get clean like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a cello. What are you gonna do? Little boys get clean like the shoe.
Bonsoir. Il est 19h passé de 4 minutes. Et vous êtes bien sûr Radio Canu, c'est l'heure du Canu Info. Ça y est, je vous ai donné les micros.
Ah.
Et ce soir, on va parler de...
À Bure, le tribunal ne veut pas prononcer l'expulsion des occupants du bois trop vite.
Homosexualité en Inde, un changement de politique en demi-teinte.
2 ans de tôle pour un meurtre, ça paraît pas énorme, mais les condamnés sont d'anciens skinheads.
Bénin, on parlera de la culture du riz et on parlera de déguerpissage.
Théo, violence policière, présidentielle pourrie, on a un appel parisien à bloquer les lycées demain.
Geoffrin, le roquet.
Flic, on verra que c'est un bien dur métier.
On parlera d'une petite histoire d'évasion.
Et puis on achève bien les mineurs isolés étrangers. Ça sera un compte-rendu de 2 articles qu'on trouve sur Internet.
Et on terminera par un conseil d'écoute complètement bondissant, complètement dingue, qui viendra du Cap-Vert.
Commencer tout ça avec une toute petite brève pénitentiaire, comme on dit. Et il fallait y penser, et il a osé. Un détenu de Perpignan s'est fait la malle en se faisant passer pour un autre qui, lui, était illibérable dans la même prison. Hein, donc. Et c'est donc par la grande porte qu'il s'est évadé au nez et à la barbe des matons qui ont dû se faire passer un sacré savon par leur chef. Suite à ça, il lui a simplement suffi de piquer la carte d'identité de son co-détenu qui devait être libéré dans la journée, de remplir les dernières formalités de sortie, et hop, le voilà dehors. Et ce n'est que lorsque son co-détenu, qui lui s'est rendu compte qu'il n'était pas appelé pour être sorti, qu'il a appelé les matons, qu'ils se sont rendu compte qu'ils avaient fait une erreur. Une enquête administrative est en cours car les deux détenus ne se ressemblaient pas du tout.
Alors,
Direction Bure.
Alors, nos camarades du Canu Info du lundi vous en ont parlé en début de la semaine, mais voici la suite du feuilleton. Le tribunal de grande instance a décidé aujourd'hui de sursoir à statuer sur l'expulsion des lieux. Alors, Bure, vous savez, c'est des militants antinucléaires qui occupent le bois Le Jus. Cet endroit, c'est l'épicentre de la lutte contre le projet... On m'entend pas du tout, c'est ça que vous voulez dire ?
Si, c'est bon, vas-y.
Ok. Contre le projet de centre industriel de stockage géologique d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure. Et donc, ces militants vont attendre le mois d'avril pour être fixés sur leur possible expulsion. Le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc a décidé ce matin de sursoir à statuer sur l'expulsion du bois d'un gars qui s'appelle Sven Lindström, qui est un Finlandais qui a décidé d'y élire domicile. En fait, on parle d'une cabane en bois, hein, quand son domicile c'est une cabane en bois, où il héberge ses amis qui, bon, sont des opposants et opposantes au projet d'enfouissement. Le bois le jus. Alors pour revenir un petit peu là, vous voyez, c'est ce bois qui est donc qui est en surface sur le site choisi pour faire une poubelle de déchets nucléaires à Bure. Le bois est occupé par les antinucléaires depuis le printemps dernier. Avec alors il y a eu on a eu des épisodes de guérilla dans la forêt, en particulier contre des vigiles privés plutôt ultra-violents qui avaient été embauchés par l'ANDRA, donc l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, les gens qui vont construire cette poubelle. Et après ça, les opposants avaient déjà remporté une sorte de grosse victoire judiciaire, puisque l'ANDRA avait été condamné à abattre un mur qu'ils avaient construit et à reboiser une parcelle qu'ils avaient déboisée illégalement sans avoir les autorisations nécessaires. Aujourd'hui, pour l'instant en tout cas, c'est pas une aussi grosse victoire, mais enfin quand même, le tribunal a demandé la comparution personnelle de ce Sven Lindström le 29 mars, en souhaitant qu'il justifie de son identité, bon, savoir s'il existe réellement, ça, on verra peut-être à ce moment-là, et qu'il communique tout document sur ses conditions d'hébergement et les caractéristiques du logement qu'il occupe dans le bois. Autant dire que tous les tribunaux ne s'encombrent pas toujours de tels détails, qu'ils auraient aussi pu facilement juste prononcer l'expulsion, et que si ce tribunal est si tatillon, eh ben c'est qu'il n'a pas l'air d'être complètement prêt à obéir au doigt et à l'œil aux volontés de l'ANDRA et donc de ce projet CIGEO. La décision sera donnée le 5 avril, elle fera suite de toute façon à d'autres décisions qui doivent intervenir entre-temps dans le dossier du CIGEO, dossier qui donne lieu à une véritable, à ce que je ne sais plus où j'ai chopé cette expression, mais à ce qu'on peut appeler une véritable guérilla juridique entre l'ANDRA et les opposants.
C'est proche qui se passe entre le Portugal et l'Espagne, puisqu'il y a des petites bisbilles entre le Portugal et l'Espagne sur une centrale qui est vieille, qui n'est pas très loin de Lisbonne, du côté espagnol, et qu'ils avaient promis qu'ils allaient la fermer, mais finalement ils ne vont pas la fermer, ils vont la laisser les Espagnols continuer. Puis il y a des histoires aussi avec des déchets, bref, on aurait pu parler de ça dans les nouvelles du monde, mais on va plutôt changer complètement de continent et aller du côté de l'Inde. Et de nouveau, pour faire une digression de plus, j'aurais pu vous parler des velléités du gouvernement Modi. Alors Modi, c'est le chef du gouvernement qui est hautement nationaliste et pas forcément très recommandable. Alors voilà, j'aurais pu vous parler des vagues de privatisation qui sont en cours, ou qui sont prévues en tout cas pour 2016-2017, donc plutôt 2017 du coup, du côté de l'Inde, avec l'idée générale de ce donc gouvernement nationaliste, mais du coup très libéral, de liquider un paquet d'entreprises publiques et de les reverser au privé. Alors je ne voulais pas donc vous parler de ça, je voulais vous parler d'une nouvelle qui est sortie à la fois dans le Courrier International et dans Mediapart, et ça parle d'une campagne d'information assez étonnante du côté de l'Inde, et qui permet de rappeler des choses qui se passent du côté de la pénalisation de l'homosexualité donc en Inde. Voilà, une campagne d'information qui est lancée par le gouvernement Modi, celui-là même, à l'adresse des adolescents, adolescentes, et qui redonne de l'espoir à ceux qui réclament la dépénalisation de l'homosexualité dans le sous-continent. Donc, comme le rappelle l'article du Courrier International, on peut rappeler que les rapports, j'ouvre les guillemets, contre nature, sont interdits par l'article 377 du Code pénal indien. Donc c'est quand même peut-être quelque chose qu'on ne le sait pas, mais c'est quand même assez glauque. Et voilà, donc on est dans une espèce de schizophrénie à l'indienne. D'un côté, il y a cette loi, et puis d'un côté, il y a donc cette campagne d'information. Et voilà, donc le gouvernement Modi, qui est en place depuis bientôt 3 ans, il ne veut pas légiférer pour annuler la décision de la Cour suprême qui avait donc réintroduit fin 2013 le délit d'acte sexuel contre nature, voilà. Mais c'est le ministère de la Santé qui vient de vouloir décider de distribuer à des dizaines de milliers d'enseignants un kit qui vise à apprendre aux adolescents et adolescentes des collèges et des lycées le B.A.B.A. des relations amoureuses. Et dedans, alors c'est un kit qui a été préparé avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la population, et bien il y a des phrases qui recommandent à la jeunesse indienne d'être un petit peu sensibilisée sur un certain nombre de choses. Par exemple, elle dit qu'il est dans ce kit qu'il est tout à fait normal d'être attiré par des personnes du sexe opposé ou du même sexe que le sien. Voilà, donc c'est écrit noir sur blanc, comme si ça tombait pas sous le sens, mais bon, ça a le mérite d'être quand même précisé dans ce pays-là. Et il y a précisé aussi que...
Dans ce pays-là ou ailleurs, hein, parce qu'il y a aussi des kits comme ça qui sont utilisés en France, et c'est pas pour rien, quoi.
Voilà, mais c'est quand même l'occasion aussi de rappeler qu'il y a quand même une pénalisation de l'homosexualité en Inde, ce qui est peut-être pas le truc qu'on sait tous et toutes. Voilà, il y a quand même des rappels sur le consentement mutuel, la confiance, la transparence et le respect, des choses qui paraissent évidentes, mais en tout cas qui sont distribuées. Et voilà, juste aussi pour ajouter un petit quelque chose, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui a dû s'étrangler, c'est Maneka Gandhi, qui est en fait dans la filiation des Gandhi, qui est en fait au pouvoir, qui est membre du parti au pouvoir, qui est le BJP. Et elle, par exemple, le BJP, c'est donc ce parti ultranationaliste indien, elle avait dit que le viol conjugal n'a pas lieu d'être puni en Inde, car il s'agit d'un concept occidental incompatible avec l'histoire et la culture locale. Voilà. Et puis le BJP, ce même parti au pouvoir, lui, assimile officiellement l'homosexualité à une maladie génétique. Voilà. Donc, ça fait quand même plaisir de voir ce kit, c'est peut-être un coup de couteau dans l'eau, mais ce kit du ministère de la Santé, qui est assez remarquable, et il peut être assez surprenant dans la mesure où il y a des choses qui sont marquées, comme par exemple qu'il est précisé que les garçons, les adolescents, ont le droit de pleurer, ils ont le droit d'aimer faire la cuisine quand on est un garçon, et qu'on peut aussi, c'est pas pour autant qu'on est efféminé, donc c'est marqué noir sur blanc. Et puis une fille a aussi le droit de s'habiller en garçon et un garçon en fille, sans que cela signifie quoi que ce soit. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de choses qui nous paraissent normales sur cette antenne, mais qui sont marquées dans ce kit qui voilà, donc je voulais en parler juste pour préciser que c'est pas Jojo, donc quand même du côté de l'Inde sur ce thème.
Alors on va commencer par remonter un peu dans le temps pour l'histoire suivante. On va remonter au 1er août 2009. Le soir du 1er août 2009, un gars qui s'appelle Frédéric Bourget fait la fête dans un bar de la rue Paulbert à Rennes. Dans le bar, il y a deux types et une fille qui sont des skins et qui, entre autres, d'après tous les témoins de la scène par la suite, ont passé la soirée à, entre autres, faire des saluts nazis, donc un peu clairement des skinettes d'extrême droite. À un moment, la fille demande une clope à Frédéric, Frédéric la refuse, et là, le ton monte, baston, les trois le traînent dehors, coup de poing, coup de pied, quand il est par terre, il continue à lui donner des coups de pied dans la tête, le tout en le traitant de, deux points ouvrez les guillemets, sale gauchiste. Frédéric est sonné suite à cette histoire, mais il se relève et il va quand même continuer la soirée chez des potes, et puis il a mal à la tête, il part pour rentrer chez lui, et on le retrouvera le lendemain, couché dans la rue, mort d'une hémorragie au cerveau. C'est la suite des coups qu'il a reçus. Les trois accusés ont été placés après les faits pendant 7 à 8 mois en détention provisoire, et là donc ça faisait plus de 7 ans qu'ils étaient sous contrôle judiciaire, et ils ont eu semble-t-il le temps de changer de vie, de mode de vie. En tout cas, eux, ils disent avoir quitté la mouvance d'extrême droite après leur incarcération. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils encouraient quand même, parce que mine de rien, ils ont quand même tapé un bonhomme jusqu'à le tuer, ils encouraient 15 ans de réclusion criminelle. Bon, c'est pas, on peut pas vraiment dire qu'ils aient eu cette peine maximum encourue, puisque les deux qui étaient majeurs ont été condamnés à 5 ans, dont 3 avec sursis. Le troisième accusé, qui était mineur au moment des faits, a écopé de 4 ans de réclusion, dont 2 avec sursis. En résumé, 2 ans de tôle chacun, chacune, dont 8 mois qui sont déjà effectués. Alors, on va pas non plus, nous ici, râler du fait qu'ils auraient pas pris assez tôle ou je sais pas quoi. On va juste, on va s'abstenir de commenter nous-mêmes. On va plutôt citer un bout du commentaire qu'on peut lire sur le site Antifa, le site La Horde. Ce crime s'ajoute à une liste trop lourde pour être ignorée dans ce qu'elle a de politiquement réel. L'extrême droite tient à la violence comme à une valeur, un rite d'accomplissement et même un moyen d'exister. On n'est pas skinhead d'extrême droite sans avoir pour but dans la vie le tabassage d'immigrés ou de gauchistes, à 3 contre 1 dans le cas présent. On ne met pas des coups de doc dans la tête d'un individu en l'appelant sale gauchiste par hasard. Il est effarant de constater à quel point le volet politique de l'affaire passe pour un folklore dans les médias et devant une cour de justice, mais également chez un tas de partis politiques qui sont habituellement très prompts à communiquer. Et à l'heure où, on peut quand même faire cette comparaison, où les inculpés de Aulnay-sous-Bois prennent de la ferme pour des délits imaginaires, au jour où une poubelle qui crame déclenche une avalanche de dénonciations outrées, et ben, des nazis qui tuent, eux, y prennent 2 ans. Alors, il ne s'agit pas ici de réclamer une forme de justice dans la justice bourgeoise, mais de noter à quel point la motivation d'extrême droite passe presque pour une circonstance atténuante, un synonyme de « à l'époque, j'étais pas bien dans ma peau », et à quel point le silence politique autour de cette affaire est quand même inquiétant.
On change complètement de sujet et complètement de continent puisque l'on va du côté de l'Afrique et en particulier du Bénin dans les grands axes de Cotonou où commerçants, restaurateurs et vendeurs à la sauvette ramassent les briques et balaient les gravats qui s'amoncellent, qui sont un petit peu les vestiges d'opérations de déguerpissement qui sont menées par les autorités béninoises. Alors on en parlait en hors micro, tu nous disais que déguerpissement c'est un mot qui sortirait du dictionnaire et effectivement une opération de déguerpissement...
En fait c'est du vocabulaire administratif officiel quoi qui existe.
Voilà, et ça consiste à débarrasser entre guillemets l'espace public d'occupation qui n'aurait pas été décidé en tout cas.
En fait, c'est une expulsion, mais on l'appelle déguerpissement que si c'est une expulsion d'un endroit, enfin que ce soit un terrain, un bâtiment ou n'importe quoi, d'un endroit qui appartient à l'État.
Voilà, donc déguerpissement du domaine public. Donc je vous parlais du Bénin, mais pour faire un petit écho avant d'en parler un petit peu plus, avec ce qui s'est passé au Botswana, au Rwanda ou au Malawi, où vraiment ces opérations donc, techniques de déguerpissement de l'espace public sont réalisées
parce que
grande échelle.
À côté du fait que ce mot existe et est utilisé dans le dictionnaire, c'est un mot qui est effectivement toujours, enfin il semble, hein, mais qu'il n'est jamais utilisé en France, mais par contre il est massivement utilisé dans les pays d'Afrique francophone.
Voilà, et justement, le Bénin, un de ces pays-là, avec les marchés, les avenues, les maquis, c'est les petits bars de quartier, les abords des stades, tous les petits terre-pleins, et bien en fait, aucune rue qui est un petit peu stratégique dans l'organisation de la ville n'a échappé à cette décision de, j'ouvre les guillemets, de libérer les emprises du domaine public. Alors c'est un adjoint au maire du Cotonou qui nous dit, ben voilà, la population, la nature a horreur du vide et la population a occupé avec des commerces, des activités commerciales, un petit peu partout l'espace public pour mieux s'exposer, pour mieux vendre. Et on a décidé qu'on s'arrêtait là. Et pourquoi on en parle? C'est que, du jour au lendemain, ça crée des situations délicate pour celles et ceux qui faisaient de la vente comme ça sur les trottoirs. Alors pour y être allé, vous pouvez voir un grand nombre de personnes qui vendent des liquides du liquide marron. Alors on peut penser, moi j'avais pensé que c'était par exemple de l'huile de palme ou du vin de palme ou des choses comme ça qui pouvaient penser à être des produits de l'agriculture. En fait c'est surtout de l'essence frelatée qui vient du Nigeria qui est vendue massivement donc du côté du Bénin. Alors voilà, c'est le président Patrice Talon, fraîchement élu, qui en juillet a dit « Dans 6 mois, je veux que les grands centres urbains du Bénin soient embellis et je veux dégager les routes, les rues, dans le cadre de la politique de rupture. » Donc lui aussi, il a utilisé cette terminologie de politique de rupture. Résultat, y a des grandes croix rouges qui sont apparues sur les murs des terrasses, sur des édifices construits à la route, entre guillemets, sur le domaine public. Il y a eu des grandes affiches qui ont été posées. Et puis par exemple, c'est Ageline Bokovo, qui est vendeuse de pagne à Cotonou depuis 5 ans, Bah, elle n'y a pas cru hein, quand elle a vu tout ça. Sauf qu'à partir du 5 janvier, ça a été mis en place. Et donc, il s'est passé que, elle nous dit, hein, cette femme, j'ai pas pu battre j'ai pas pu combattre la force publique les mains nues. J'avais aucun choix. Et donc, son petit magasin a été rasé. Alors, du coup, comme beaucoup, cette commerçante, eh bien, elle se retrouve dans une situation sociale qui est carrément critique. Alors, elle nous explique même qu'elle a récupéré les gravats, qu'elle a essayé de vendre ses gravats pour essayer de récupérer un peu des sous, mais du coup, elle ne sait pas où réaliser son activité. Donc, c'est un peu les grandes opérations haussmanniennes sous les tropiques. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'article. Et donc, ces opérations de déguerpissement, donc c'est effectivement comme ça qu'on les appelle en Afrique francophone, elles sont fréquentes, certes, mais elles n'ont pas été bien préparées. Et en tout cas, elles ont comme corollaire d'attaquer les plus pauvres qui doivent installer leurs étals pour non pas faire du business invraisemblable, mais pour récupérer des sous pour vivre au jour le jour. Eh bien, doivent décaler leurs étals dans des rues moins passantes ou moins visibles. Et puis, résultat, c'est une situation compliquée pour pas mal de gens. Donc, j'ouvre les guillemets. Cette mesure touche les petites gens qui ne sont pas forcément organisés en association ou en syndicat, comme c'est le cas dans les pays anglophones comme le Ghana. Visiblement, au Ghana, les gens sont plus organisés, donc ça se passe mieux. Il y a des solutions de relogement, en particulier du côté d'Accra, des places de marché qui ont été aménagées pour ces personnes qui sont expulsées lors de ces opérations, et à Cotonou, que dalle ou que nenni, selon que l'on préfère telle ou telle terminologie. Donc voilà un impact social de cette situation qui est un petit peu lourd, et les autorités qui font pas grand chose, donc qui font que tout un tas de gens sont dans la galère du côté donc de ces grandes villes du Bénin. Et j'en profite pour continuer à parler du Bénin, alors cette fois-ci avec un reportage qui vient de RFI et qui nous parle du riz, de la riziculture plus exactement du Bénin, qui essaie de se développer, en tout cas d'être supporté dans ce pays. Et c'est un peu la galère. Alors pourquoi le riz est particulièrement poussé par le Bénin? Il faut savoir qu'avant c'était la filière coton qui était particulièrement il y avait vraiment une grosse concentration de fric et d'énergie sur la filière coton. Et vous l'avez peut-être vu, il y a eu la crise alimentaire et la flambée des prix en 2008 qui a fait que il y a des problèmes d'autosuffisance du Bénin par rapport au riz. Et on peut se retrouver artificiellement affamé parce qu'il y a des gens qui spéculent sur le riz. Voilà. Donc, on spécule sur le riz, c'est une valeur refuge qui fait que le prix augmente, parce qu'en fait, on attend que ça remonte, les spéculateurs attendent que ça remonte pour revendre, pour faire du bénéfice. Et bien, résultat, au Bénin comme ailleurs, on peut se retrouver à ne pas avoir les 25 à 30 kilos de riz par an et par personne qui sont nécessaires. Alors, du coup, une grosse énergie sur le riz. Et faut savoir qu'il y a aussi un autre enjeu, c'est que le Bénin fait une espèce de contrebande de riz avec le Nigeria, parce que le Nigeria a fait une politique où il dit c'est archi protectionniste et il dit le Nigeria c'est du riz nigérian. Sauf que ça suffit pas et donc il y a une contrebande de riz qui va entre le Bénin et le Nigeria. Résultat, le riz, sauf qu'il y a des obstacles. Il y a l'eau. Ils n'arrivent pas à juguler les sécheresses. En tout cas, dans un monde où il y a un réchauffement climatique généralisé, eh bien, ça devient super compliqué la gestion de l'eau. Là, il y a un homme qui nous dit, juste au moment de la floraison, il n'y a pas eu d'eau et tout a grillé parce qu'ils n'ont pas de structure qui permet encore de savoir faire autrement que d'être tributaire des eaux de pluie, donc c'est l'irrigation, etc. Puis ils n'ont pas accès aux semences de qualité, il n'y a pas forcément de mécanisation, il y a un manque de professionnalisation, etc., etc. Ça, c'est l'obstacle 1. Et puis, il y a un autre obstacle qui est beaucoup plus vicieux, que moi j'ai vu au Burkina Faso, c'est que le riz importé, il coûte moins cher que le riz produit. Donc en fait, le riz importé crée une concurrence déloyale sur le riz maison du Bénin ou du Burkina, qui fait qu'il n'y a pas vraiment de raison de produire du riz pour des raisons pour faire des sous, parce que tu te fais avoir. Donc pour le dire autrement, ces importations qui inondent le marché local, eh bien ça crée quelque chose de déséquilibré au niveau du prix, au niveau même de la qualité. Et puis, alors voilà un exemple, vous trouvez un sac de riz de 50 kilos autour de 18 000 francs CFA, alors que pour du riz béninois, pour le même sac, c'est 28 000 CFA, donc c'est bien plus cher. Donc c'est une espèce de serpent qui se mord à la queue. Et à pire, c'est que les Béninois et les Béninoises se sont mis à manger donc exclusivement du riz asiatique et à apprécier en fait ce riz asiatique et à donc ne plus avoir envie au niveau gustatif, au niveau de la couleur, au niveau du côté raffiné, de sa difficulté à être cuit, etc., n'ont plus envie de revenir au riz local. Donc c'est la merde, pour vous dire ça franchement.
Surtout que j'imagine que pas envie, ça marche les années où il y a effectivement assez de riz, mais après quand il se met à plus y avoir assez de riz, peut-être qu'ils auront envie de
et ben voilà.
Au riz local que de rien du tout.
Et voilà.
Ce moment, il y en a pas qui est produit.
Voilà, donc c'est un aspect, tu vois, c'est une vision à long terme, c'est de dire il faut réintroduire l'utilité du riz local parce qu'au moment où les prix flandrent, il faudra du riz local quoi. Bon, c'est pas joujou, comme je vous l'ai dit. Il y a eu un arrêté qui a dit que il fallait des agréments spéciaux pour les importateurs de riz. Et pas de bol, ça a été pris au mois de juillet, cet agrément. Et en fait, il y a eu des pressions qui fait qu'un mois plus tard, ça a été abrogé. Donc, il n'y a pas vraiment de législation formatée pour aider la filière riz. Il y a juste, de nouveau, ça peut prêter à sourire, le salut du riz béninois. Eh bien, il pourrait venir du fait que justement le marché nigérian, qui est lui très protectionniste, pourrait devenir pourrait avaler le riz béninois, qui pourrait donc retrouver une filière pour écouler son riz. Bref, on marche quand même un peu sur la queue, c'est comme ça qu'on dit. C'était pour parler de ce superbe pays qui s'appelle le Bénin.
Alors, on avait déjà parlé un petit peu ici une fois de ces différents appels qui sortent à droite et à gauche autour de cette espèce de truc qui s'appelle Génération Ingouvernable. En tout cas, il y a des choses qui fleurissent un peu autour de ça, qui éventuellement s'y rattachent explicitement ou parfois non, mais qui ont le même vocabulaire, un peu le même contenu. Et en tout cas, ça s'arrête pas. Alors après, c'est difficile de savoir parfois ce que ça donne réellement en termes de mobilisation. Ce qui est sûr, c'est que là, pour demain, il y a un texte qui circule sur Facebook et qu'on trouve sur certains sites d'infos alternatif un peu, enfin, en l'occurrence sur parislude.info, mais qui est aussi relayé par le site toulousain ou peut-être le site marseillais, je ne me rappelle pas, qui est un appel à bloquer les lycées demain. Alors, il n'y a pas du tout cet appel pour Lyon, mais il faut bien dire qu'à Lyon, de toute façon, les lycées
sont bloqués
par les vacances scolaires. Mais donc, voilà, là, on va vous lire l'appel parisien parce que c'est toujours source d'inspiration quand même.
Le climat qui règne en France est de plus en plus inquiétant. Une grande mobilisation de la jeunesse est plus que nécessaire pour contrer le climat sécuritaire et raciste. Nous demandons justice pour Zied, Bouna, Adama et tant d'autres victimes de la police. Les lycéens sont nombreux à subir des contrôles aux faciès, c'est-à-dire racistes, car se basant sur la couleur de peau. Lors de ces contrôles, c'est bien souvent des insultes gratuites et des coups si quelqu'un ose parler de ses droits. Les conditions d'études sont de plus en plus mauvaises. Les classes sont surchargées et les facultés renforcent les dispositifs de sélection. On pourrait aussi souligner l'ennui qui règne dans nos cours, car les programmes sont si longs qu'il n'y a plus de place pour le débat. Nos lieux d'études deviennent des lieux où l'on vient consommer du savoir. Les élections présidentielles tournent à la mascarade. D'un côté, un candidat comme Macron n'a pas de programme. D'un autre, tous ceux qui sont plus ou moins tous mouillés dans des affaires de corruption ou des arnaques pour se faire du bif sur notre dos, ou encore les guerres de chapelle à gauche. L'ensemble des candidats passent leur temps à discuter de sécurité en proposant de limiter nos libertés, à renouer un pseudo-dialogue avec la police quand cette dernière tue et que l'institution tout entière couvre les meurtriers, ou encore à envisager des mesures libérales pour nous faire travailler toujours plus alors que nos vies sont déjà minées par une précarité profonde. Ces raisons ne sont que les plus visibles. Nous pourrions allonger la liste, faire des propositions plus concrètes en termes de revendications, mais nous pensons que c'est aux acteurs des luttes, c'est-à-dire à vous, de bloquer vos établissements pour libérer du temps, démontrer en prenant la rue le temps d'une manifestation que nous pouvons être une force ensemble et nous réunir dans des assemblées par établissement ou en coordination pour penser à un autre monde dès maintenant. Alors, bloquez vos lycées le jeudi 23 février, embrayons sur le début d'une lutte prolongée. Alors, à voir. Hein, pour, en tout cas, c'est un appel national, mais à voir s'il sera repris sur Lyon et en tout cas sur la zone concernée par Lyon. Je ne sais pas ce que c'est.
Mais c'est ça. Et après, ces appels, effectivement, ils fleurissent. On n'a pas l'impression qu'à chaque fois, ça soit énorme ce qui se passe derrière. Mais ils sont quand même de plus en plus nombreux. En tout cas, ce n'est pas un truc qui s'arrête. Peut-être que ça ne donnera pas plus que ça. Mais ma foi, qui sait.
Oui, ça fait un espèce de plein de petits trucs qui se passent un petit peu tout le temps.
C'est ça.
Et pendant qu'il se passe un peu tout le temps, plein de petits trucs sympas, pendant qu'il se passe un peu tout le temps, il se passe des trucs moins sympas, à savoir l'omniprésence de gens alors pénibles. voilà, alors je vous explique quand même le contexte. On va parler de Laurent Geoffrin, qui est donc celui qui fait les éditoriaux de l'IB, et puis qui est même le chef de l'IB, et qui est vraiment, mais en fait, on peut parler de choses vraiment très bien plus intéressantes que ça, mais le problème c'est qu'il est vraiment insupportable, et que pourquoi il est insupportable, ça mérite d'être dit, et ça donne, disons, des petites angoisses sur la société. Alors, bon, il se trouve que moi, j'ai pris le train il n'y a pas très longtemps, là, et je suis tombé, j'ai eu un moment de faiblesse, j'ai acheté l'IB parce que je ne savais pas quoi faire dans le train. Et là, je ne me suis pas loupé puisqu'il était tout bleu. Alors, il y avait marqué aujourd'hui, l'IB est tout bleu puisque Samsung, le nouveau Samsung, le nouveau téléphone S de cette marque-là, est tout bleu. Et donc, l'IB est tout bleu aussi parce que c'est la pub. Donc, il y avait marqué, pas signé, excusez-nous pour, mais bon, voilà. Donc, l'IB était tout bleu. Avec tout vrai le journal, les deux premières pages qui étaient la pub pour ce fameux. Voilà. Donc ça donne une petite idée. Bon, alors je me suis dit, c'est mal parti. Et puis après, il y avait un édito que j'ai lu sans savoir de qui il s'agissait, qui nous disait que quand même, alors on ne parle pas de présidentiel, mais qui disait que le candidat de socialiste, il fallait qu'il arrête d'être gauche et qu'il fallait qu'il aille regarder au centre, parce que c'était ça, l'avenir de la gauche. Voilà, donc c'est toujours pareil. Et en fait, toujours ce gars-là, c'est Laurent Geoffrin. Et le lendemain, Acrimed, c'est un site et une association qui, Action Critique Média, qui dissèque ce qui se passe dans les médias, qui est vraiment une asso hautement recommandable. Elle montre quels sont les travers qui peut y avoir dans différents médias. Et Acrimed nous explique que justement, quelqu'un d'Acrimed était invité sur France Culture pour une interview et qu'en face, on lui avait mis le fameux Laurent Geoffrin. Donc, le représentant, je lis Acrimed, le représentant de tout ce qui se fait pire dans l'éditocratie, arrogance, mépris, mensonge, le tout en déployant des efforts constants pour tenter d'empêcher son interlocuteur d'exprimer son point de vue. Donc, vous pouvez aller sur Acrimed, c'est très enrichissant. Donc, on découvre que la personne d'Acrimed a essayé de parler et qu'elle a été interrompue 27 fois par Laurent Geoffrin, donc cet éditorialiste, ce qui fait une interruption toutes les 20 secondes. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a la parole, donc Geoffrin, qui a la parole dans son journal, qui est interviewé dans tout un tas de médias dominants.
Qui tient des chroniques régulièrement.
Qui tient des chroniques insupportables et qui en plus empêche les autres de discuter. Et qui est donc ce qu'on appelle vraiment un des membres de cette éditocratie qui n'a rien à voir avec la représentation. C'est-à-dire qu'il est en aucune manière, il représente des gens, mais il parle énormément, il bourre le crâne d'énormément de gens, et en plus il fait ça de manière odieuse. Voilà, donc je ne vais pas en parler plus, si elle ne mérite vraiment pas d'en parler bien plus, mais voilà, c'est pour plutôt parler d'Acrimed, de ses champs d'action et de sa façon dont quelque part les éditocrates peuvent être chatouillés par sa superbe utilité publique.
Et en parlant d'Acrimed, est-ce que tu sais toi si leur site est toujours en fonctionnement ou pas?
Ouais, en tout cas le site est actif. Ah. Voilà, en tout cas il était actif il y a pas très longtemps.
D'accord, en ce moment j'avais un doute qu'ils avaient arrêté, mais du coup
on en avait déjà parlé, mais je crois bien que ça continue quand même. Voilà.
Ah, police. métier policier, un métier d'aventure, un métier de risque, un métier parfois ingrat, mais on se rattrape avec ce sentiment d'héroïsme, de vivre des choses incroyables, de combattre le crime et les gangsters. Eh bien, deux exemples aujourd'hui. Alors, on va partir de cette histoire à Roubaix. À Roubaix, eh bien, mardi, c'est hier, des policiers de Roubaix dans le Nord ont été la cible de jets de projectiles alors qu'ils intervenaient après l'incendie d'un local poubelle. Vous voyez toute cette gloire et la bataille contre les crimes. Alors voilà, il était 21h30 hier soir lorsqu'une patrouille de police a été envoyée rue Archimède à Roubaix. Ils avaient été avisés que des pompiers qui intervenaient sur l'incendie d'un local poubelle se trouvaient en difficulté en raison de la présence de plusieurs individus, selon la police.
Dur.
Des individus, c'est toujours très 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 problématique, très très risqué, très très effrayant. Néanmoins, lorsque la patrouille est arrivée sur place, elle n'a rien constaté de suspect en fait. Au contraire, le quartier semblait très calme. Les pompiers ont terminé leur intervention normalement et tout le monde a quitté les lieux sans problème. Mais c'est 20 minutes plus tard que un équipage de la brigade canine a été envoyé au même endroit pour sécuriser l'intervention des services techniques dans le local poubelle. Et là, ces policiers de la brigade canine ont été accueillis par des jets de blocs de béton. Attention quand même,
on va essayer d'en prendre sur la tête des morts.
De blocs de béton, oui, mais justement, ils étaient en haut. Depuis les plateformes du bâtiment attenant au local. Les parpaings, bon, ne sont pas tombés sur les flics quand même. C'est-à-dire, ils n'ont vraisemblablement pas été lancés sur les flics, mais ils ont quand même tombé sur leur bagnole, enfonçant un toit et éclatant le pare-brise. Les agents pris à partie ont appelé du renfort et des effectifs de CRS ont été envoyés sur place pour sécuriser les lieux. Alors, ça sécurise beaucoup. L'un des policiers de la brigade canine a quand même été légèrement blessé à la main par des éclats de verre du pare-brise.
Et sans compter les parpaings qui ont subi...
Mais qui auraient pu les blesser, mais bon, qu'ils n'ont quand même pas blessé.
Qui ont subi, qui ont été agressés, les parpaings.
Ah ben oui, c'est ça. Il n'y a eu aucune interpellation sur ce coup-ci. Mais alors attention, pire que tout maintenant... On rentre dans l'aventure la plus de grand chemin, quoi.
C'est là où on comprend les gens qui allaient s'engager dans la police, c'est pour ça, quoi.
Mais oui, c'est pour ça. Si vous engagez, c'est pour ça. C'est pour ce que je vais raconter maintenant. Deux policiers municipaux en Essonne, à Savigny-sur-Orge, blessés dans une embuscade. Et là, attention, ça rigole pas.
Far West.
Toujours hier, mais à 18h30, deux policiers municipaux... non mais attendez, je ne vais pas vous raconter tout de suite la fin. La mairie en est persuadée, il s'agit d'un véritable guet-apens. Donc deux policiers municipaux ont été violemment pris à partie par une quinzaine d'assaillants dans le centre-ville. Les deux agents étaient chargés de surveiller le secteur de la gare et ils circulaient en voiture, bon ils faisaient leur ronde quoi, dans une petite rue, lorsque un individu, encore une fois, un individu, si vous croisez un individu, faites gaffe. Un individu assène un coup de pied dans leur portière.
Wow.
Là, les flics sortent pour demander des comptes, nous dit l'article. Et là, ils sont immédiatement entourés d'une quinzaine de personnes. Et là, écoutez bien le récit alors fait par le cabinet du maire. Pendant 8 minutes, ils ont reçu des coups de pied et de poing. Ils ont été ceinturés. Ils se sont défendus comme ils pouvaient en attendant les renforts. Heureusement que leurs agresseurs n'étaient pas armés, car si la commune de Savigny-sur-Orge a fait une demande pour armer ses 12 policiers municipaux, les démarches n'ont pas encore abouti. Alors est-ce que l'un pourrait peut-être expliquer l'autre? Je ne sais pas. Peut-être que la commune a quand même envie que les démarches aboutissent plus vite. Parce que quand même, les agents pris à partie, tous deux anciens militaires, souffrent de blessures légères. Le premier a un hématome au niveau de l'arcade sourcilière, et le second a été mordu à la main. Attention, on rappelle quand même le récit du directeur de cabinet du maire. Pendant 8 minutes, ils ont reçu des coups de pied et de poing. Ils ont été ceinturés, ils se sont défendus comme ils pouvaient. Pendant 8 minutes, il y a 15 bonhommes qui leur ont tapé dessus. Et eux, ils ont un hématome pour l'un au niveau de l'arcade sourcilière et le second qui a été mordu à la main.
Mais peut-être que c'est des spécialistes en esquive, tu sais pas, aussi.
Bon, une plainte a quand même été déposée et une cellule psychologique a été ouverte au commissariat. C'est la première fois que nos agents sont ainsi pris à partie. Il y a parfois des invectives, mais jamais de telles attaques, assure-t-on à la mairie. L'enquête devrait permettre de déterminer si le guet-apens a été prémédité et ses causes. Selon les premiers éléments, des attroupements d'idylles sont fréquents dans le secteur dans lequel ils patrouillaient. Bon, mais alors donc, on se rend bien compte que si vous et moi, on était pris à partie par 15 flics qui nous tapaient dessus pendant 8 minutes. C'est pas un hématome à l'arcade sourcilière qu'on aurait, c'est qu'on serait mort. Là, en l'occurrence, effectivement, On dirait que les coups et que les coups de pied et de poing ont dû être donnés avec une certaine modération, ou alors peut-être purement et simplement inventé, ou en tout cas on ne sait pas, mais il y a quand même un truc dans le récit qui est un peu chelou, quoi.
On achève bien les mineurs isolés étrangers, compte rendu de deux articles.
Alors l'État français a un problème avec les mineurs isolés étrangers, parce que le problème des mineurs isolés étrangers, c'est qu'avant d'être étrangers, c'est surtout des mineurs, et qu'à ce titre, ils sont protégés par la Convention internationale des droits de l'enfant que la France a ratifiée il y a maintenant 28 ans. Le problème, c'est que ces enfants... L'État a surtout envie d'en faire des sans-papiers comme les autres, puisque si c'est pas le cas, eh ben, l'État est obligé de les loger, de les nourrir, de les scolariser, et que l'État a vraiment autre chose à foutre que de s'occuper de ces crèves-la-faim généralement pas blancs et gamins. Donc l'État n'hésite pas depuis juillet dernier. Alors là on parle surtout d'une situation toulousaine, parce que les deux articles dont je parle sont des articles toulousains. C'est possible que ailleurs ça se passe autrement, ou que ça se passe comme ça, ou surtout que ça se passe, parce qu'en réalité ça a l'air de se passer plus ou moins comme ça dans beaucoup d'endroits. On a aussi d'autres histoires qui remontent d'autres endroits, mais c'est possible qu'ailleurs ça remonte à plus longtemps que juillet dernier aussi. En tout cas, à Toulouse, c'est depuis juillet dernier que l'État n'hésite pas à les enfermer dans des centres où des éducateurs ont surtout pour mission de les déclarer majeurs à au moins 80% si possible, s'il vous plaît. Mais en fait, ils y arrivent bien, parce que c'est plutôt 85%. Pour ça, toutes les méthodes sont bonnes. Interrogatoire, menace, humiliation, comptage des dents, test osseux, etc. Et donc, on a deux articles. Un article un peu généraliste qui présente la situation toulousaine d'une manière générale. Ça c'est un article sur un blog de Mediapart, et puis sur yaata.info on a un long interview d'un mineur isolé étranger qui nous raconte son histoire, qui est une histoire assez hallucinante. Alors je vais commencer par raconter un peu l'article sur le blog, parce qu'il m'y permet de donner un cadre. Donc à Toulouse, le Conseil Général multiplie les attaques aux droits de l'enfance. Depuis juillet 2016, plus de 180 jeunes ont été privés d'hébergement et vivent actuellement à la rue. Le Conseil Général, par l'intermédiaire des dispositifs de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, est chargé par la loi de porter assistance aux jeunes mineurs isolés étrangers. Cependant, les jeunes étrangers connaissent des conditions de prise en charge très précaires, c'est le moins qu'on puisse dire, et ils doivent passer par une procédure de vérification de leur minorité, basée sur des critères dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils sont questionnables. Et même lorsqu'ils sont déclarés mineurs, de toute façon leur placement en foyer est moins systématique que pour les mineurs de nationalité française. C'est des résumés pour les deux articles, hein, sur le blog de Mediapart, du coup la dame qui écrit nous explique qu'en juillet, le Conseil Général de Haute-Garonne a annoncé la création d'un nouvel organisme chargé de contrôler l'âge des mineurs isolés étrangers, et donc c'est le DDAOMIE. Alors ceci, il va revenir plusieurs fois, je vous propose de dire le DAOMIE qui est le dispositif départemental de l'accueil, de l'évaluation et d'orientation des mineurs isolés étrangers. Il a ouvert ses portes en Haute-Garonne, il a ouvert ses portes le 4 juillet 2016. Il faut savoir que c'est une structure qui existe théoriquement en France depuis 2007. Il emploie des travailleurs et des travailleuses sociales à évaluer l'âge des jeunes pour sanctionner leur possibilité de bénéficier d'une prise en charge qui comprend donc l'hébergement, l'alimentation et le suivi de la scolarité. Et là, dans ce blog Mediapart, il y a un mineur qui explique que voilà, on m'a demandé de passer des tests osseux. Le travailleur social m'a dit que ces tests disaient que j'étais majeur, mais j'ai jamais pu avoir accès aux résultats, même si j'ai insisté pour les voir. Les critères d'évaluation de la minorité sont basés sur la mise en doute du récit des jeunes. Lors de l'entretien, ils transpiraient, ça prouve bien qu'ils mentaient, des arguments comme ça. Il montrait des signes de maturité, il comprend très bien ce qui se passe autour de lui. Cela est donc la preuve de sa majorité.
Et ça, c'est
des extraits de rapports qui ont été sortis du DAOMIE.
Mais qui sont faits par des éducs.
Par des éducs. Alors, voyons maintenant des extraits du témoignage de Jean, donc sur yahata.info, qui prétend avoir 16 ans. Le traître, il voudrait bien s'empiffrer à nos frais. Et il est originaire du Cameroun. Donc Jean est arrivé en juillet dernier en passant par l'Espagne. Alors, pour celles et ceux qui nous suivent régulièrement et qui savent qu'on n'arrête pas de parler de la procédure Dublin 3, et donc qui pensent que Jean aurait dû être renvoyé en Espagne puisque c'est le premier pays européen où il a mis les pieds. Bon, vous vous trompez sur ce coup-là, puisque cette directive Dublin 3 ne concerne pas les mineurs. Les mineurs sont d'abord dans la hiérarchie des textes, sont d'abord soumis à ce truc de déclaration des droits de l'enfant. Et puis on va voir que dans un premier temps, de toute façon, la France, son souci numéro un avec les gens qui disent qu'ils n'ont pas 18 ans, c'est pas de les foutre dehors, c'est surtout de ne pas dépenser d'argent pour leur donner un toit ou à manger. Donc Jean nous raconte le premier interrogatoire, le jour de son arrivée au centre d'Aumieux. Alors la personne qui l'interviewe lui dit « Est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils allaient évaluer ton âge ?» Non, ils ne m'ont rien dit, je pensais que c'était juste pour évaluer mon parcours. Mais la manière de me poser des questions, c'était comme un interrogatoire de police, comme si j'avais fait quelque chose. Tous les jours, il fallait qu'on te repose la même question. Mais moi, je venais de vivre quelque chose qui était très dramatique. Il faut quand même dire que Jean est arrivé avec un ami qui avait le même âge que lui, 16 ans, et que son ami est mort sur le chemin. Bon, il continue en disant « on ne s'occupait pas de moi, on ne s'occupait pas de ce que j'avais pu traverser. Je suis arrivé et j'ai été directement interrogé plusieurs fois. » Alors voilà, Jean se met à stresser dans ce Daoumieux. Il n'arrive plus à dormir, il se sent de plus en plus mal. Au bout de 3 jours comme ça, il leur a dit qu'il ne se sentait pas bien, qu'il n'arrivait pas à dormir, qu'il avait des images du trajet qui lui revenaient tout le temps. Mais bon, du coup, personne n'en a rien à foutre. Hein. Les gens ne sont vraiment pas là pour apporter du réconfort. Et encore 3 jours après avoir dit ça, Jean perd connaissance au milieu de la rue et il est emmené aux urgences. Alors là, la personne qui l'interviewe lui demande ce que c'était les questions qui lui étaient posées plusieurs fois par jour. Bon, c'est des petits extraits de l'interview. L'interview est vraiment très longue et elle vaut vraiment le coup d'être lue en entier. Elle s'appelle « On achève bien les mineurs isolés étrangers ». Donc là, on lui demande ce que c'est les questions qu'il lui posait plusieurs fois par jour. Alors, lui répond « Ta date de naissance, le nom de ton père et de ta mère, par quelle ville t'es passé pour venir ?» Parfois, on peut te dire des choses comme « Tu parles pas comme un mineur, tu parles trop bien pour un mineur. » Ils ont dit qu'il était trop timide, trop réservé dans son coin, et donc que s'il se mélangeait pas trop au groupe, c'est certainement qu'il avait des choses à cacher, comme son âge. Lui, il dit, mais vu mon parcours, vu ce que j'ai traversé, je vais pas arriver là et parler à tout le monde directement. Si tu parles bien français, par exemple, t'es pas mineur, c'est lui qui parle, qui dit ça. Je sais pas comment un mineur camerounais est censé parler, je sais pas, peut-être il faut être bête, dit-il. En tout cas, Jean, une fois qu'il a perdu connaissance dans la rue, il est envoyé à l'hosto. Pendant qu'il est à l'hosto, des éducs viennent le voir alors pour prendre de ses nouvelles, pensez-vous ? Pas du tout, pour lui dire qu'il a été évalué majeur.
Oh là là.
Bon, lui, il va vraiment mal à l'hosto. Il passe plutôt du temps à retourner des pensées suicidaires. Et les infirmières, apparemment, s'entendent bien avec lui. On va y revenir, enfin, parce que ça joue un rôle pour plus tard dans son histoire. Une assistante sociale parle de son cas au procureur. Et le procureur fait une ordonnance de placement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il le considère comme mineur. Mais Jean est renvoyé au Dao et au Mieux. Un éduc lui dit à ce moment-là, t'as fait une scène de comédie pour aller à l'hôpital.
Ah ouais, carrément, hein.
Ouais, c'est donc des gens qui sont là pour s'occuper d'enfants qui ont vécu des choses pas forcément faciles, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors on comprend pas très bien pourquoi, comment il raconte l'histoire. En tout cas, à un moment, il est envoyé à Bordeaux dans un autre DAOMIE, où il est toujours question de savoir si, oui ou non, il est mineur. Et donc Jean continue. Quand j'étais à l'hôpital, il m'avait fourni des habits, une valise. Donc c'est les infirmières qui lui ont fait cadeau de fringues et d'une valise. J'étais propre à la sortie. Ils m'ont vu arriver comme ça à Bordeaux et ils se sont dit « Non, toi, t'as pas l'air de quelqu'un dans la difficulté. » C'est ce qu'ils m'ont dit. Alors là, les gens qui l'interviewent, les gens qui écrivent l'article, lui demandent s'il a d'autres informations sur les interrogatoires du Daoumieux à Bordeaux. Et il répond « D'autres partaient pour faire des tests osseux. On les menaçait de les envoyer au centre de rétention. D'autres se faisaient compter les dents. » Un jour, un éducateur veut lui faire une blague et lui dit « Alors, ça fait quoi de manger 3 fois par jour ?»
Bon, autant dire, lui, le prend plutôt très mal. Il continue à expliquer ce que c'est les critères d'évaluation de son âge. Après, donc là c'est lui qui parle. Après, on peut te dire, écris ton nom. Là, il voit que tu as une belle écriture et il te le dit. Et puis, il te redemande quelle année tu es né. Tu lui dis la date et il te demande si tu es vraiment sûr. Là-bas aussi, il fonctionnait, c'est toujours Jean qui parle.
C'est la torture psychologique. Hein,
ouais, ça y ressemble un peu. Ouais. Mmh. Bah, c'est de l'interrogatoire, mais mené sur des semaines et des semaines. De l'interrogatoire vraiment tendance flic, quoi. Où le crime qu'il faut avouer, c'est la majorité. Donc Jean continue, et là c'est toujours lui qui parle. Là-bas, il ne fonctionnait qu'avec des clichés. Le bon mineur, c'est quelqu'un qui est sous-scolarisé, qui ne doit pas bien s'exprimer, qui ne doit pas bien réfléchir, parce que des fois c'est arrivé qu'on parle de sujets, la vie m'a amené à me poser des questions sur des trucs. Je cause avec des éducs, je leur donne mon point de vue, ils trouvent ça très intéressant, et puis ils disent que c'est pas possible qu'un mineur puisse réfléchir comme ça. Bon bref, Jean finit par se retrouver devant l'inspectrice du conseil général qui lui dit « Nous ici, on est un service chargé de l'évaluation, de l'orientation et de l'accompagnement des mineurs isolés. » On prend des enfants d'un certain âge jusqu'à la veille des 18 ans. Vous, je n'ai aucune raison de vous considérer comme mineur. Alors, ce que vous allez faire, vous allez aller voir votre éducatrice. Elle va vous donner un bon et pour que vous alliez à Paris. Et à Paris, démerde-toi. C'est vraiment ça. Hop, on lui file un billet de train et puis ciao. Bon, lui, il a pas envie d'aller à Paris. Alors, il passe un temps à zoner à la gare en se demandant ce qu'il veut foutre et tout ça. Là, il rencontre quelqu'un. Voyez, c'est vraiment long, son histoire. Mais où à un moment ça se passe bien, il rencontre des gens en classe, tout ça. Et à un moment, en tout cas, quelqu'un lui indique l'espace social du Grand Ramier, qui est un lieu à Toulouse, qui accueille des personnes en grande difficulté, en gros des gens à la rue, et qui propose de la bouffe et un point d'eau. Une carte est délivrée aux usagers après une évaluation sociale qui permet l'accès aux différents services du centre. Mais là-bas, c'est compliqué, explique Jean, car c'est un endroit qui ne prend pas de mineurs. Même le 115, ils refusaient, parce que le 115, ils prennent pas des mineurs s'ils sont tout seuls.
Est-ce qu'ils sont censés être pris en charge par
l'aide sociale à l'enfance?
Donc il a quand même pas menti pour du coup pour.
Il explique pas en fait. S'il leur a dit non mais je suis majeur, s'il leur a dit on m'a évalué majeur, ou s'il leur a rien dit et qu'ils lui ont trouvé une tête de mineur. Toujours est-il que lui il avait aucun document ni rien, que d'un côté il était considéré comme majeur, donc il n'allait pas être pris en charge par l'État, mais que quand il va dans les structures qui sont censées prendre en charge les majeurs à la rue, on le jette parce qu'il est bien trop visiblement mineur. Alors il faut savoir que Jean n'est donc pas du tout un cas isolé. J'ai hésité à faire la blague, même s'il est un mineur isolé étranger. Bon, mais après, non, elle est à chier. Donc Jean n'est pas un cas isolé, ils sont donc au moins 180 rien que dans la ville de Toulouse et rien que depuis le mois de juillet. Alors ça, quand il s'agit de détruire la jungle de Calais où des gens vivent de manière précaire mais en tout cas arrivent un minimum à s'organiser, quand il s'agit de détruire les petites structures qui ont été faites à l'arrache, ça l'État y arrive très bien, mais quand il s'agit de faire face à ses obligations légales que l'État a vis-à-vis des mineurs, eh ben ça il n'y arrive pas trop pour le coup. Alors le plus simple, c'est encore juste de décréter qu'ils ne sont pas du tout mineurs. Alors d'abord, puisqu'on va rentrer dans les 3 minutes culture qui nous restent, juste il y a un autre article dont j'aurais bien aimé vous parler, mais j'avais pas du tout le temps, c'est aussi un très long article, il est hyper bien, il s'appelle « Nous appartenons à un gang », et c'est un article sur les connexions, mais en fait les connexions idéologiques et d'intérêt de classe entre la police, les politiques et les journalistes. Il est ultra bien parce que à la fois il montre que c'est complètement ultra connecté et à la fois pas du tout sur un ton complotiste. Bon, en tout cas, il s'appelle « Nous appartenons à un gang ». On le trouve très facilement sur Google.
Voilà, pour finir, un conseil d'écoute. Il s'agit probablement du disque le plus bondissant de l'année 2016. Ça s'appelle Space Echo. C'est une compilation de musique du Cap-Vert. On connaissait Bonga, on connaissait aussi
Césaria
Evora, merci, sur des choses, sur des notes un petit peu plus douces. Et là, mais honnêtement, il y a 17 morceaux, c'est sur un label qui s'appelle Analog Africa, qui est un label allemand assez underground, qui sort des raretés souvent africaines et parfois d'Amérique du Sud. Donc je vous réexplique, hein. Space Echo, The Mystery Behind the Cosmic Sound of Cabo Verde. C'est vraiment complètement fou. Il y a des morceaux, je ne sais pas si vous avez la forme ou pas la forme, vous mettez ce disque, ça bondit dans tous les sens, ça saute, c'est à la fois psychédélique, à la fois invraisemblable. Bref, ça se trouve dans tous les bons disquaires sur internet et aussi dans toutes les bonnes médiathèques. Par exemple, ça c'est l'exemplaire qui vient de la médiathèque.